Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 3. Comment le toucher apprend aux autres sens à juger des objets extérieurs. Chapitre 4. Pourquoi on est porté à attribuer à la vue des idées qu'on ne doit qu'au toucher. Par quelle suite de réflexions on est parvenu à détruire ce préjugé. Pourquoi on a de la peine à se persuader que l'œil a besoin d'apprentissage. Il nous est devenu si naturel de juger à l'œil des grandeurs, des figures, des distances et des situations, qu'on aura peut-être encore bien de la peine à se persuader que ce ne soit là qu'une habitude due à l'expérience. Toutes ces idées paraissent si intimement liées avec les sensations de couleur qu'on n'imagine pas qu'elles en aient jamais été séparées. Voilà, je pense, l'unique cause qui peut retenir dans le préjugé. Mais pour le détruire tout à fait, il suffit de faire des suppositions semblables à celles que nous avons déjà faites. Suppositions qui achèvent de détruire ce préjugé. Notre statue croirait infailliblement que les odeurs et les sons lui viennent par les yeux, si lui donnant tout à la fois la vue, l'ouïe et l'odorat, nous supposions que ces trois sens fussent toujours exercés ensemble, en sorte qu'à chaque couleur qu'elle verrait, elle sentit une certaine odeur et entendit un certain son, et qu'elle cessa de sentir et d'entendre lorsqu'elle ne verrait rien. C'est donc parce que les odeurs et les sons se transmettent sans se mêler avec les couleurs qu'elles démêlent si bien ce qui appartient à l'ouïe et à l'odorat. Mais comme le sens de la vue et celui du toucher agissent en même temps, l'un pour nous donner les idées de lumière et de couleur, l'autre pour nous donner celles de grandeur, de figure, de distance et de situation, nous distinguons difficilement ce qui appartient à chacun de ces sens et nous attribuons à un seul ce que nous devrions partager entre eux. Ainsi, la vue s'enrichit aux dépens du toucher, parce que n'agissant qu'avec lui, ou qu'en conséquence des leçons qu'elle en a reçues, ses sensations se mêlent avec les idées qu'elle lui doit. Le tact, au contraire, agit souvent seul, et ne nous permet pas d'imaginer que les sensations de lumière et de couleur lui appartiennent. Mais si la statue ne voyait jamais que les corps qu'elle toucherait, et ne touchait jamais que ceux qu'elle verrait, il lui serait impossible de discerner les sensations de la vue de celles du toucher. Elle ne soupçonnerait seulement pas qu'elle eût des yeux. Ses mains lui paraîtraient voir et toucher tout ensemble. Ce sont donc des jugements d'habitude qui nous font attribuer à la vue des idées que nous ne devons qu'au tact. Soupçons et réflexions qui ont amené cette découverte. Il me semble que lorsqu'une découverte est faite, il est curieux de connaître les premiers soupçons des philosophes et surtout des réflexions de ceux qui ont été sur le point de saisir la vérité. Malebranche est, je crois, le premier qui ait dit qu'il se mêle des jugements dans nos sensations. Il remarque que bien des lecteurs seront choqués de ce sentiment. Mais ils le seront surtout quand ils verront les explications que ce philosophe en donne, car il n'évite un préjugé que pour tomber dans une erreur. Ne pouvant comprendre comment nous formerions nous-mêmes ces jugements, il les attribue à Dieu. Manière de raisonner fort commode et presque toujours la ressource des philosophes. « Je crois devoir avertir, dit-il, etc. » Il explique encore, plus au long, dans un éclaircissement sur l'optique, comment il imagine que Dieu forme pour nous ses jugements. Locke n'était pas capable de faire de pareils systèmes. Il reconnaît que nous ne voyons des figures convexes qu'en vertu d'un jugement que nous formons nous-mêmes et dont nous nous sommes fait une habitude. Mais la raison qu'il en donne n'est pas satisfaisante. Comme nous nous sommes, dit-il, accoutumés, etc., peut-on supposer que les hommes connaissent les images que les corps convexes produisent en eux et les changements qui arrivent dans la réflexion de la lumière selon la différence des figures sensibles des corps? Molineux, en proposant un problème qui a donné occasion de développer tout ce qui concerne la vue, paraît n'avoir saisi qu'une partie de la vérité. Supposer, lui fait dire Locke, un aveugle de naissance, etc. Les conditions que les deux corps soient de même métal et de même grosseur sont superflues, et la dernière paraît supposer que la vue peut, sans le secours du tact, donner différentes idées de grandeur. Cela étant, on ne voit pas pourquoi Locke et Molineux nient qu'elles puissent toutes seules discerner les figures. D'ailleurs, ils auraient dû raisonner sur les distances, les situations et les grandeurs, comme sur les figures, et conclure qu'au moment où un aveugle né ouvrirait les yeux à la lumière, il ne jugerait d'aucune de ces choses. Car elles se retrouvent toutes, en petit, dans la perception des différentes parties d'un globe et d'un cube. C'est se contredire que de supposer qu'un œil, qui discernerait les situations, les grandeurs et les distances, ne saurait discerner les figures. Le docteur Barclay est le premier qui ait pensé que la vue, par elle-même, ne jugerait d'aucune de ces choses. Une autre conséquence qui n'aurait pas dû échapper à Locke, c'est que des yeux sans expérience ne verraient qu'en eux-mêmes la lumière et les couleurs, et que le tact peut seul leur apprendre à voir au dehors. Enfin, Locke aurait dû remarquer qu'il se mêle des jugements dans toutes nos sensations, par quelque organe qu'elles soient transmises à l'âme. Mais il dit précisément le contraire. Tout cela prouve qu'il faut bien du temps, bien des méprises et bien des demi-vues avant d'arriver à la vérité. Souvent, on est tout auprès et on ne sait pas la saisir.